Bonjour, je suis Bérangère Krief. Vous écoutez... Non, j'ai oublié le texte. Bonjour, je suis Bérangère Krief. Vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-opienne, pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. Sale temps pour les mouches, sale temps pour les toches, je m'explique. Ce week-end, d'une grande plume s'est envolée, une plume américaine qui a signé quelques-uns des livres les plus indispensables sur cette musique qui vient de là, comme disait l'autre, qui vient du blues. Je parle de Nick Toshies. Vous tous qui m'écoutez, si vous n'avez jamais lu Hellfire, l'hallucinante biographie que Nick Toshies consacra à Jerry Lee Lewis, alors il est temps de vous y mettre si vous voulez espérer capter l'étincelle de folie qui mit le feu aux poudres. Comme vous lirez avec bonheur son texte fondateur, Country, même et surtout si vous vous contrecognez plus ou moins farouchement de la musique des garçons vachés, ou encore Unsung Heroes of Rock'n'Roll, les héros oubliés du rock'n'roll. Autrement dit, tous ceux qui avant 54 et Elvis avaient déjà posé les bases de la grammaire. Sans oublier Dino, sa bio hors clou de Dean Martin, le crooner poivreau au charme irrésistible. Il y a beaucoup à dire sur Toshies et nous évoquerons sa mémoire en compagnie de Philippe Garnier que nous recevons mercredi. Celui dont nous allons parler aujourd'hui, René Cossini, a laissé aussi une trace incandescente dans nos mémoires. Tous autant que nous sommes dans ce pays, nous avons un jour ou l'autre lu l'une de ses œuvres, Astérix, Lucky Luke ou le petit Nicolas pour ne citer qu'elle. Et bonne nouvelle, sa biographe, ou plutôt celle qui a déroulé le fil du roman de la famille Goscinny, est-elle en pleine forme? La preuve, elle est assise en face de moi et elle me sourit. Qu'a-t-elle et l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop-pop-pop, Antoine de Caunes.
Bonjour Catel.
Bonjour Antoine.
Arrêtez de me sourire comme ça, vous allez me faire rougir. Enfin, à mes côtés, Charline Roux. Bonjour Charline Roux.
Bonjour Antoine.
Mais vous aussi, vous me souriez.
Pas du tout, c'est un rictus.
Mais que
c'est une erreur. Bonjour Catel.
Ah, mais si, nous sommes lundi. Ça y est, j'y suis. Alors, avec vous, Catel, nous allons donc parler du roman des Goscinny, votre nouveau roman graphique. Au menu également de Pop-pop-pop. Un pop-pop-pop assez riche aujourd'hui. Le casting du nouveau podcast original LGBTQ+, de France Inter, qui porte le meilleur nom du monde, à savoir Intérieur Queer. Et nous irons à New York, ou presque, pour parler de la série événement Watchmen avec Laurent Vallière. Mais avant ça, Catel, ici, il existe une question encore plus lourde qu'un menhir d'Obélix. Ah, juste un peu à côté. Et cette question, c'est... Pour vous, Catel, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses catélisées, bédétisantes et même gossinesques. Et parmi mes préférées, il y a celle d'Anne Goscinny, évidemment.
Eh bien moi, en fait, j'ai une passion dans la vie, c'est Georges Brassens. Mmh. Alors ma pop culture à moi, elle commence et elle s'arrête avec Georges Brassens.
Bien, ça c'est fait. Et pour vous, Catel?
Non, alors moi c'est pas Georges Brassens, mais c'est pas très loin d'Anne Goscinny, parce que ça se rapprocherait de son père, Goscinny, mmh. René. Mais tout d'abord, quand je pense à pop culture, c'est culture populaire, donc c'est en opposition à quoi? À culture bourgeoise. Ça me fait penser à pop art, Andy Warhol, Roy Lichtenstein qui a peint en grand des cases de bande dessinée. Et voilà, ça nous amène à la bande dessinée et à René Goscinny et à Astérix, la bande dessinée, dans les années 60, qui est devenue véritablement un art, alors qu'avant c'était de la lecture pour les illettrés et les déficients mentaux. Mmh. Et puis ça devient un art, d'ailleurs c'était Francis Lacassin qui a décrété que ça serait le 9e art dans ces années-là. Et c'est vrai que Astérix, c'est vraiment le symbole de cette culture populaire de qualité que lisent tout le monde, les grands, les petits. Et voilà, pour moi, ça c'est Astérix finalement.
C'est Astérix, très bien. Ça vous convient, Charline?
Oui, c'est difficile d'aller contre.
Mais personne ne voulait aller contre. Nous sommes tout à fait ravis, ça me convient aussi parfaitement. Merci, ma chère Catel. Bien, la pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après, What's the Move? C'est un morceau signé Young Thug and Lil Uzi Vert. You just gotta tell me what you want. Love a ton, diamond, keep calm. All you do is point at what you want. Crystal cut panels in the town. $35 for a dog. Nigga try to buy the cash cars. Purse Miller Brands with the walls. $35 for a dog. You make it twerk for me. You get a purse for me. $80 off for a burger. You get a purse for free. I make it work for me. Call me and burst for me. Turn to a VIP. I make it work for me. You won't back, oh, no, 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 no.
I make her drop it and pop it and break it on my nose. I make her shut up and suck it, she fucking at my shows.
I make her shut up, she fucking, she sucking at my shows.
Drip, drip. No shoes in my sneaker won't trip. My jeans ain't so tight they don't fit. Still walk around with a stick on my hip. VVS diamonds right behind my lip. Down wall with lasting 50 on my wrist. Diamonds so cold on my neck it got me sick. Rob Simmons mix it up with the Rick. Flexing on these haters, oops I made my bad. Made it from the soil, made it from the Rex. Richer than your first, richer than your last. LUV, know I got the swag. Pop a rubber band, pop another Zan. I groove around, party back my hand. I'm seeing double looking through my lens. Tell me what you want, I just want your friend.
You just gotta tell me what you want. Live a ton, diamond key, calm. Okay. All you do is point at what you want. Point at the crystal cut, panels and chum. Oh, yeah. 35,000 for a dog. Nigga try to buy the cash cause. Purse Miller brands with the walls. 35,000 for a dog. You make it twerk for me. You get a purse for me. 80,000 off for a burger. You get a purse for free. I make a worship me. Copy and burst for me. Turn to a VIOB. I make a word for me.
And pop it and break it on my nose. I make her shut up and suck it, she fucking at my shows.
I make her shut up, she fucking, she sucking at my shows.
What's the move, Young Thug, Lil Uzi Vert, cet extrait de l'album So Much Fun, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui se racontait à l'instant dans cette chanson. Vous écoutez l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec une auteure qui a scénarisé ça. Mais pas seulement loin de là, la preuve avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, c'est votre portrait, Katel, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
Oh, il y a de l'écho aujourd'hui, c'est étonnant. Aujourd'hui, une invitée qui a bien compris que derrière chaque grand homme se cache une femme, et même qu'il n'y a pas besoin d'hommes au premier plan pour que les femmes aient enfin droit aux honneurs qui leur sont dus. Ainsi a-t-elle consacré des bios dessinés à Olympe de Gouges, Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse ou encore Benoît de Groot. Lecture qui devrait, à bien des égards, être rendue obligatoire pour les grands comme les petits. Les petits, une catégorie de lecteurs que notre invitée gâte aussi. Et au féminin de surcroît, avec son héroïne Lucrèce, sans Borgia, Marion et son collège Fuyon, la trop rigolote Toplinote, ou encore ses squats trop cool des Papouzes. Le pouvoir est à nous, les meufs. Alors vous me direz qu'aujourd'hui, elle vient nous parler de Goscinny. Eh bien dans ce livre, comme dans tout village d'irréductibles gaulois, il y a des femmes aussi.
Il y en a même beaucoup. Hein, commencer par les narratrices.
Bon, absolument.
On va parler de ça. Vous êtes d'accord avec Beyoncé pour dire que ce sont les girls qui run the world?
Ah, ben de toute façon, c'est la moitié de l'humanité, donc, donc oui, mais moi je suis assez d'accord qu'on soit partenaire avec les hommes quand même, c'est quelque chose qui doit se partager, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les femmes ne peuvent pas, ne peuvent plus être effacées.
Je peux rester quand même?
Oui, bien sûr.
Pas parce que je suis en minorité là aujourd'hui.
Oui, puis il est gentil.
Bon, très bien, alors je reste...
Très bienveillant.
Katel, on va parler de séries dans la séquence qui suit, mais pas uniquement d'un gars et une fille, la preuve avec votre pop-list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Le bruit des clés d'Anne Goscinny. Tiens, 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 c'est ce livre qui est à l'origine de votre rencontre et de votre amitié. Charline, j'ai deux choses à vous demander. Je voudrais entendre le bruit de vos clés et que vous nous racontiez ensuite de quoi parle ce bruit des clés, pour autant qu'un bruit parle, bien sûr.
Alors, je vais faire gling-gling, parce que j'ai pas mes clés dans ma poche.
Pourquoi ? Où sont-elles ?
Dans mon sac, en réalité. Quant au livre, c'est une magnifique lettre adressée par Anne Goscinny à son père pour lui raconter tout ce qu'il n'a pas vécu.
D'accord. Qu'a-t-elle ? Auriez-vous la gentillesse de nous lire l'extrait que Claire-Sophie Collet vient juste de déposer sous vos yeux ? Alors qu'elle avait oublié. Alors,
tu as mis des mots dans des bulles et des bulles dans des cases. Tu as inventé suffisamment d'histoires pour que ta voix peine à s'éteindre. Sais-tu, papa, ce que ton œuvre a de constant ? Tu n'as jamais donné la mort. Les plumes et le goudron ont tenu lieu de potence. De ton univers, tu es le seul mort. Moi, j'aurais aimé être l'un de tes personnages. Une enfance qui n'en finit pas. Une bulle dans une case, c'est tout.
Très bien. Donc on comprend que la relation d'Anne Goscinny à son père est quelque chose qui est le fil rouge de sa vie, qui continue à l'être. Et c'est aussi ce qui vous a inspiré donc, dans votre travail.
Ah bien sûr, puisque c'est Anne qui m'a proposé, qui est venue me voir pour me proposer de dessiner son père sous forme d'une biographie, comme elle en avait lu celle que j'avais fait sur des femmes, et notamment la dernière sur Benoît de Groulx, mon idole. Et ce à quoi je lui avais répondu dans un premier temps, non, ça tombe pas bien, je fais plutôt des portraits de femmes, donc ton père n'étant pas une femme, ça va pas être possible. Bon, Anne n'avait pas grand-chose à dire à cela, malheureusement, même si son père était un grand génie, qu'il avait été, qui était père fondateur de la bande dessinée moderne, qui m'avait construite, puisque j'ai grandi avec tous ses livres et ses héros. Donc notre première rencontre, chez d'ailleurs Blandine de Cône,
Mais qu'est-elle? Alors, pourquoi ce roman d'Anne Goscinny? Qu'est-ce qu'il y a dans Le Bruit des Clés qui vous a tellement touché?
Alors, Le Bruit des Clés, justement, c'était une deuxième rencontre. Je suis allée la voir pour lui faire dédicacer ce livre que j'avais eu, qui m'avait extrêmement émue. Parce que c'était l'histoire d'une fille qui aurait pu tout avoir si elle avait eu l'essentiel. Elle a perdu son papa à 9 ans et sa mère quelques années après, qui est décédée d'un cancer. Et elle a dû se construire toute seule, en ayant l'héritage quand même, qui était Astérix et tout le reste, sur les épaules. Et en même temps, perdu son père, sa mère, c'était assez terrible comme destin. Et elle a écrit dans cette dernière lettre à son père, où en creux, elle raconte son amour pour lui et toute cette histoire dramatique, intime, et qui est extrêmement émouvante. Et en même temps, il y a toujours un peu d'humour dedans, il y a énormément de sensibilité. Ça raconte l'histoire d'Astérix en creux, de toute une famille. Et ça m'a tellement touchée que j'ai trouvé mon héroïne, ma clandestine de l'histoire des Goscinny, qui était Anne. Ce qui fait que j'ai voulu raconter non pas le roman de Goscinny, mais des Goscinny. Et j'ai mis sur la couverture à la fois le portrait du père et le portrait de la fille.
Et ça s'appelle le roman des Goscinny.
Qui se regarde pour la première fois, puisqu'ils n'ont jamais pu le faire adulte.
Et on va en parler dans quelques instants. Ça y est, j'ai mon livre, c'est donc Le Bruit des Clés d'Anne Goscinny. Passons au film. Pour le film, vous avez choisi Gardienne de Xavier Beauvois, réalisé en 2017. Charline, de quoi sont donc gardiennes ces gardiennes d'immeubles, de temples, de chiennes
Non, de fermes, Antoine. En 1915, les hommes sont à la guerre. Les femmes ont donc pris la relève à la ferme du Paridier. Hortense, Nathalie Baye, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder.
Tu fatigues moins?
Maintenant que j'ai la petite, ça va mieux. Même quand la guerre sera finie, on te gardera, ma fille.
Mon cher Georges, je fais de mon mieux pour soulager votre mère. Nous essayons d'être aussi fortes que vous.
Extrait de Gardienne de Xavier Beauvois, qui date de 2017. Girl Power, toujours donc. C'est ça, Catel?
Oui, d'une certaine façon, c'est un peu l'histoire des premières femmes qui travaillent, qui sont obligées de prendre le rôle des hommes parce que les hommes sont sur le front et les femmes sont à l'arrière-plan. Elles sont obligées de faire continuer la vie, de faire tourner les fermes, d'acheter du matériel, des machines et en même temps de continuer à vivre aussi une vie amoureuse si elles peuvent, comme elles le peuvent, avec ce qui leur reste. Et j'ai trouvé ce film extrêmement émouvant. C'est un sujet dont on parle pas tant. Moi, j'avais écrit une bande dessinée avec Christian Demeter sur le sang des Valentines, qui était une histoire qui se passait aussi à la Première Guerre mondiale, parce que c'est un sujet vraiment qui me touche. Et en dehors de ce sujet où il y a des magnifiques portraits de femmes, hein, notamment Nathalie Baye et sa fille Laura Smes, qui incarnent des personnages très forts de ce début de siècle, très justes, il y a aussi une esthétique incroyable dans ce film, des images magnifiques, très soignées, qui m'ont beaucoup plu d'un point de vue plastique, qui font penser aux tableaux de Millet ou de Corot ou de Breton, des tableaux naturalistes comme ça, avec des couchers de soleil, des champs de blé à toutes les saisons. Et voilà, ce rythme très bien monté aussi par Marie-Julie Maille, il y a un rythme particulier et on sort de ce film, on est transporté assez longtemps, je trouve.
Bien, j'ai mon film Gardienne de Xavier Beauvois. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'a-t-elle? Passons à la série. À cette série qui est 10%. La série créée par Dominique Bessinière et Fanny Herrero et Charline. Je vous mets au défi de me pitcher 10% à la Bessinière.
Bah, je le maîtrise bien mieux que vous, déjà. Excusez-moi. Les amis, les amants, les emmerdes d'Andrea, de Mathias, de Gabriel et d'Arlette. Les agents de l'agence artistique AFK. C'est difficile, là, quand même, il y a beaucoup de S. Et leurs interactions parfois absurdes et compliquées avec leurs clients.
Pour les 30 ans d'Alaska, on fait quoi? On ferait pas une grosse fête?
Ça fait 10 ans que j'ai toujours le meilleur chiffre d'affaires de l'agence.
Ouais, sauf qu'un du jardin égale deux canets.
T'as pas des copains à me présenter? Alors si justement parce que je suis aussi agent matrimonial, donc qu'est-ce que tu cherches exactement?
Juste un mec normal.
Ça va, Monica?
Tu remarques rien? Tu te drogues?
Mais non, Gabriel.
Je cueille des carottes, et surtout il y a l'homme de ma vie, Jésus.
Je fais quoi? Je vous offre un verre? Il prendra quoi, votre ami?
Oui, 10%.
La série 10%, donc je voudrais juste vous dire, Charline, que c'est moche de se moquer des fautes de prononciation. Bon,
vous aimeriez... Vraiment, sérieusement, la paille, la poutre, l'œil, tout ça, non, du tout.
Vous aimeriez redevenir scénariste de série le temps d'un épisode de 10%, Katel?
Ah oui, là, je crois que ça m'inspirerait. Comme un gars, une fille, j'adorerais. D'ailleurs, j'ai rencontré quelques personnes de ce film aussi, et puis un producteur qui s'appelle
Jean-Michel.
Évidemment, il y a Dominique Besnéard, mais bon, il y en a un tas d'autres derrière. Il y a la scénariste aussi, Fanny Arrero. Et je trouve que Camille Cotin est formidable. Enfin, moi, je me suis assez identifiée à elle. Je la trouve tellement drôle. Mathias aussi, un des personnages principaux, me fait penser à mon agent François Samuelson. Et bien sûr, toute la brochette de personnages qui sont une espèce de photographie de la société parisienne aujourd'hui, avec les stars qui jouent leur propre jeu. On retrouve d'ailleurs une saison où dans un épisode, il y a Nathalie Baye et sa fille Laura Smith. Donc je retrouve mes gardiennes dans cette situation de mère et fille. Mais je trouve qu'elles sont pleines d'autodérision. Et en même temps, c'est assez émouvant comme série. C'est assez profond, c'est léger. Enfin, je trouve que c'est pour une série française, moi qui regarde beaucoup de séries, je suis très fan de séries en tout genre, américaines et autres. Voilà, que ce soit Breaking Bad ou qu'est-ce qu'on disait avant, on en parlait.
Mad Men.
Enfin, j'en ai vu tellement que là, je suis en plein dedans. Même les Breaking Bad ou les Walking Dead, pardon, m'ont fasciné aussi en série. Mais finalement, là, en français, je trouve que c'est assez drôle d'arriver à faire quelque chose de qualité comme ça et de quotidien. On s'y retrouve bien.
Parfait. Terminons cette pop liste avec votre chanson culte, Katel, et cette chanson, c'est celle-ci.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des.
Whip,
des.
Clip, crack,
des.
Bang,
des.
Blop,
et des.
Zip, shibam, pow,
je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait. Ça fait,
splash,
et ça fait,
stop,
ou bien,
bon,
ou,
oh,
parfois même,
shabam, pow, blow,
wheel. Comic strip de Serge Gainsbourg, bien sûr, la chanson pop par excellence. Ça veut donc dire que, puisque vous ne choisissez que des héros féminins pour vos livres, il n'y aura jamais, par exemple, de livres sur Gainsbourg, signé Katel?
Mais je crois qu'il y a déjà eu des livres sur Gainsbourg.
Peu importe.
Mais vous savez, la vie est courte, il y a beaucoup de personnalités fantastiques à raconter. Déjà, les femmes, il y en a beaucoup aussi. Comme je suis une femme, c'est quand même plus facile d'aller vers les femmes plutôt que vers les hommes. Et puis bon, Gainsbourg, je crois qu'il n'a pas besoin d'être plus connu qu'il ne l'est. Il est déjà énormément, et Joanne Sfar a fait un magnifique film sur lui déjà.
Alors, cette chanson?
Alors cette chanson, il y a Bardot aussi dedans. Ouais. Après, je crois que Jane Birkin l'a reprise aussi. Hein. Mm-hmm. Mais je trouve que ça raconte tout. Hein. C'est les années 60, comic strip, c'est la bande dessinée, les cases, les bulles, avec un décor incroyable, parce que c'est un des premiers clips qui a été tourné pour une émission de télévision, où le décor avait été fait, je crois, par Tito Taupin, qui était un dessinateur de bande dessinée, un auteur, et il avait fait un décor incroyable avec des ballons, des onomatopées dans les ballons, des dessins de Brigitte Bardot dans le fond, et elle est brune, elle ressemble un peu à Barbarella, une héroïne de BD, et ça m'avait fascinée jeune, et je crois que ça s'est resté hyper moderne, je pense que ça n'a pas pris une ride.
Hyper moderne, absolument.
Voilà, j'adore.
Alors, je résume Le Bruit des Clés, Les Gardiennes, 10% et Comic Strip, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça nous donne ça.
Oui, un moment, tu fatigues moins.
Ouais, sauf qu'un du jardin égale deux canets.
Cher Georges, je fais de mon mieux pour soulager votre mère.
Alors si justement parce que je suis aussi agent matrimonial, donc qu'est-ce que tu cherches exactement?
Juste un mec normal.
Viens, petite fille, dans mon comic strip.
Tu as mis des mots dans des bulles et des bulles dans des cases. Tu as inventé suffisamment d'histoires pour que ta voix peine à s'éteindre.
Cheval.
Prendra quoi votre ami?
Blanc.
10%.
Voilà ce qui traîne dans la tête de Katel ces jours-ci. Ça vous convient?
Très bien.
Ça nous convient aussi. Alors Katel, ne bougez pas, on va parler du roman des Goscinny dans la suite de Pop Pop Pop, juste après le rock du groupe de Los Angeles, Star Crawler, et le morceau c'est No More Penis.
France Inter. Antoine Decaune.
Et Charline Roux.
Paris, prénom et roman des Goscinny sont les résultats qui tombent en premier quand on tape votre nom sur Google, Catel. Et ça tombe bien aujourd'hui, on va parler du roman des Goscinny avec vous. Et ce n'est pas le roman de Goscinny, mais des Goscinny. Car vous l'avez fait avec Anne Goscinny en découvrant qu'à travers la vie de René, c'est le roman de la famille Goscinny qui était le véritable sujet, au fond. Alors, il n'empêche, rendre cet hommage à Goscinny n'était pas seulement nécessaire, il était indispensable, dites-vous. Pourquoi ? Il n'occupe pas la place qu'il mérite ?
Ben en tout cas, ces personnages occupent la place qu'ils méritent. Hein. C'est des personnages cultes, que ce soit Astérix, comme on le disait, Lucky Luke, le petit Nicolas. Tout le monde connaît un peu, surtout Astérix le connaît mondialement. Hein. Jusqu'à Is No Good d'ailleurs. Mmh. Et puis, on connaît pas trop la vie des auteurs. Goscinny, je suis pas sûre que tout le monde sache qui c'est, même si ce nom on l'a entendu. Et alors on sait encore moins quel type de vie il a eu et surtout sa jeunesse, parce que éventuellement on connaît Goscinny à partir de la création du journal Pilote, qui a révélé des grands auteurs de bande dessinée contemporains.
Une véritable révolution. Là.
Une véritable révolution, puisque c'est vraiment le moment où la bande dessinée est devenue un art adulte dans les années 60. Et avant, la vie de Goscinny, on ne sait pas très bien. Et moi-même, je ne savais pas grand-chose, en fait. Et c'est grâce à Anne, cette rencontre, et tous les documents qu'elle m'a fournis pour raconter cette vie, que j'ai appris énormément. Alors, bien sûr, j'avais lu des biographies, notamment celle de José-Louis Boquet, dont je suis proche, qui avait écrit sur lui. Donc, je n'étais pas non plus un culte sur l'histoire. Mais il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas vues. Simplement, les dessins, par exemple. Je ne savais pas qu'il était dessinateur. Et Anne m'a mis à disposition les originaux de son papa. Et donc, j'étais frappée par la qualité de son dessin, parce que souvent on a dit que c'était pas forcément un bon dessinateur et qu'il avait choisi de faire du scénario parce qu'il était vraiment tellement lamentable dans ses dessins et pas du tout, il dessinait très bien. Malheureusement pour lui, il a rencontré des génies du dessin très rapidement, que ce soit Uderzo, Maurice, Sempé évidemment, ou Franquin ou d'autres, et ça l'a calmé. Alors il s'est dirigé vers le scénario où il était justement génial, mais il a aussi travaillé de façon Stakhanovitch pour progresser, parce que c'est pas non plus venu comme ça subitement, c'était des années de travail.
Rien ne vient comme ça.
Vous placez d'emblée le livre sous le signe du duo, celui que vous formez avec Anne Goscinny. Est-ce que c'était aussi pour faire écho au mode de fonctionnement de Goscinny père, qui lui aussi a beaucoup travaillé de cette manière ?
Alors au début, c'était pas du tout pour faire un duo avec Anne, c'était parce que Anne m'avait touchée, je lisais ses livres et que je pensais, et elle me l'avait proposé, me donner beaucoup de documents, ce qui s'est passé, et elle m'en a donné tellement que ça a pris pas des semaines et des mois, mais des années pour arriver à mettre les phrases de son père dans sa bouche, mais en enfilant des perles pour faire un collier et faire toute une voix. Donc c'est Goscinny qui se raconte par lui-même. Il omet cependant certaines choses très importantes dans sa vie, de façon volontaire ou involontaire, mais par exemple, il ne parle pas de la Shoah, ce qui vient quand même d'une famille juive d'Europe de l'Est, qui a débarqué en France au début du siècle, persécutée en Europe de l'Est. Et puis, son père, qui est ingénieur chimiste, part en Argentine avec son frère, sa mère, dans les années 20-30. Et puis après, son père meurt, il part à New York. Enfin, il n'arrête pas de voyager, mais il échappe de cette façon-là au massacre qui se passe en France, où les trois quarts de sa famille sont déportés dans les camps à Auschwitz. Mais c'est extrêmement douloureux pour lui et il occulte complètement cette période de sa vie, il n'en parle pratiquement jamais. Et c'est là que la parole de Anne prend le relais, elle m'explique, elle me donne des documents sur ce qui s'est passé et je peux raconter et dénouer en fait toute cette histoire très sombre, mais qui donne aussi une espèce de force à son père, cette sorte de désespoir en fait qui lui donne cet humour aussi fort. Hein. Et il dit d'ailleurs qu'au début l'humour est une défense, parce qu'il est très timide, mais très vite elle devient une arme. Parce qu'il s'en sert pour attaquer à sa façon, de façon pacifiste, en faisant des caricatures et en racontant des choses sous le biais de l'humour. Voilà pourquoi la parole d'Anne est importante et au fur et à mesure on devient amis et vient l'idée du binôme bien plus tard.
Mais alors vous qui justement avez consacré énormément d'ouvrages aux grandes figures féminines, est-ce que vous diriez que s'il n'y avait pas eu Anne Goscinny pour vous être dans cette tâche, vous seriez lancé quand même ?
Eh bien je crois que non. Je pense que s'il n'y avait pas eu la rencontre d'amitié avec Anne, je ne serais pas forcément allée vers ce sujet-là. Maintenant, je me rends compte qu'il est extrêmement important, ce sujet. Bien sûr, j'avais plutôt l'envie de faire un essai sur Claire Bretéché, qui était mon modèle féminin, si vous voulez. Mais il se trouve que Claire Bretéché, justement, c'est Goscinny qui lui a mis le pied à l'étrier, qui lui a écrit ses premiers scénarios et qui l'a signé dans Pilote et qui en a fait une des auteurs majeures de la bande dessinée. Il n'y aurait pas de Claire Bretéché sans René Goscinny. Donc, c'était tout à fait normal, en fait, de rendre hommage à René.
Alors, Goscinny devient donc à son tour un héros de BD, c'est ce qu'on appelle une mise en abîme, d'autant plus que vous, la dessinatrice et auteur, vous vous mettez également en scène dans l'histoire. Est-ce que ça rend la narration encore plus périlleuse ?
Ah oui, bien sûr, parce qu'il fallait que je trouve un moyen de raconter cette grande histoire. Et donc j'ai la parole de René d'un côté qui fait un chapitre, puis j'ai la parole d'Anne. Mais Anne, comment, à qui elle parle? Il fallait bien qu'il y ait un Tintin reporter qui vienne lui demander. Et finalement, c'est moi, je me mets en scène, comme j'ai pu le faire aussi quand j'ai rencontré Benoît de Groulx, et qu'il fallait aussi me mettre en scène. Malheureusement, je n'avais pas spécialement envie de faire ça, même pas du tout, mais j'étais bien obligée de la faire parler à quelqu'un. Ouais. Donc je me suis mise en scène et je me mets en personnage de BD aussi avec Anne. Voilà, et on a un chapitre sur deux, c'est nous, et elle me raconte, et je lui pose des questions, elle me montre des choses.
Mais c'est ce qui fait la force aussi de la narration, parce qu'il y a tous les croisements de points de vue. Du coup, ça part dans tous les sens, et en même temps, c'est très comment dire, axé.
Oui, puis au-delà des croisements de points de vue et de dialogue, dans le livre, on trouve aussi citations, archives, lettres, dessins. Quelle méthode est-ce que vous avez adoptée pour tout organiser ?
Ben ça s'est organisé petit à petit chronologiquement parce que j'avançais dans ma narration.
De manière empirique, pas du tout avec un...
Non, ça s'est fait de façon empirique, mais chronologique parce qu'on se voyait tout le temps avec Anne régulièrement, puis on partait dans sa maison du Sud toutes les deux, on parlait beaucoup, elle me sortait les documents au fur et à mesure dont j'avais besoin dans l'évolution de la narration. Et d'ailleurs, cette évolution chronologique correspond à l'évolution de notre amitié aussi. Parce qu'au début, on s'apprécie, on s'aime beaucoup, on a un coup de foudre d'amitié, mais petit à petit, ça devient quelque chose de très profond, on se livre beaucoup l'une à l'autre, on se connaît bien, elle me fait rigoler, et je me rends compte que Anne, qui écrit des livres très durs, très noirs chez Grasset, que j'adore, parce que j'ai toute la collection, mais je me rends compte que dans la vie, c'est quelqu'un d'hyper drôle. Pendant les vacances, elle fait rire des tablées entières d'amis, de famille, et nos enfants ensemble, et je lui dis à un moment, mais faut que t'écrives des trucs rigolos, c'est pas possible, c'est ton père réincarné. Et elle me répond, ça jamais, hein, parce que quand on est la fille de Mozart, on se lance pas dans l'opéra. Donc c'est à moi d'avoir le râteau.
Alors, pas de zone d'ombre avec votre Goscinny, c'est un fils, un époux et un père modèle. Un seul mouvement d'humeur que j'ai noté dans le livre, c'est quand il se rend compte que Jigé a mal compris son scénario en dessinant les 20 premières pages d'un Jerry Spring. Goscinny, c'était un homme sans faille, vraiment ?
Ah, ben, j'étais pas là pour le voir, mais je pense qu'il était extrêmement sensible. D'ailleurs, sa fille aussi, extrêmement sensible. Peut-être qu'il était susceptible à certains moments, sans doute. Voilà, c'est... Et très pudique aussi, mais je pense que quand il croyait fort en ce qu'il faisait, c'était difficile pour lui d'être contredit, d'autant plus qu'il avait certainement raison. Il connaissait bien son morceau et surtout le scénario, et c'est vrai que Jigé avait l'air un peu obstiné à des moments.
Le sous-titre du livre est « Naissance d'un Gaulois », et donc aborder Astérix dans le livre a été un double défi. Raconter un des plus célèbres héros est déjà compliqué en soi. Et est venu s'ajouter à tout ça une difficulté liée au fait que Astérix appartient à une autre maison d'édition que celle chez qui vous publiez cet ouvrage. De quoi se faire des nœuds au cerveau quand même.
Oui, c'est-à-dire que quand j'ai voulu évidemment mettre Naissance d'Astérix et dessiner Astérix, on m'a dit non, pas possible, c'est une marque, ça n'appartient pas du tout à Goscinny, c'est Hachette. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. Et ça, je l'ai découvert à la fin, hein, que je ne pouvais pas du tout faire Astérix sur la couverture. Donc j'ai dû chercher, très vite m'est apparue l'idée du Gaulois.
On marche quand même sur la tête, on est d'accord. On parle de la fille d'Anne Goscinny qui n'a pas le droit donc de représenter un personnage qui a été créé par son père.
Ouais, voilà, elle a le droit moral mais elle n'a aucun droit autre.
Ok, on marche sur la tête.
Ouais, ben voilà, mais ça c'est les histoires d'argent, de droit, de possession, voilà. Mais en même temps, ça a été un mal pour un bien parce que j'ai dû chercher une autre idée et c'est devenu le Gaulois que tout le monde comprend parce que Astérix est tellement connu que c'est relié directement au Gaulois. Et comment représenter le Gaulois, ce casque avec des ailes, qui est d'ailleurs une histoire assez curieuse aussi, mais que j'ai représenté entre le visage de profil de René Goscinny et de Anne Goscinny. Voilà cette création qui est ce casque avec des petites ailes et qui est vraiment propre à Astérix.
Catel, je sais, et je l'ai sous les yeux là, votre petit carnet Moleskine, vous ne vous déplacez jamais sans vos carnets sur lesquels vous dessinez à longueur du temps, sur les conseils d'un certain Cabu, n'est-ce pas ? Mais le 24 mai 2018, drame. Vous en avez perdu un, c'était dans un train entre Paris et Fécamp, voiture 12, place 9. Vous avez des nouvelles ?
Mais non, rien, mais comment savez-vous ?
Je sais tout.
J'aurais préféré que vous m'annonciez que vous l'avez retrouvé.
Alors attendez, sur une musique digne de l'émission Perdue de vue, voulez-vous passer une annonce publique ici ?
Ah oui, je cherche ce petit carnet, mais je ne me souviens même plus le numéro, vous l'avez dit, c'est le...
C'est le carnet, je retrouve
Paris Fécamp, voiture 12, place 9. Et c'est le carnet... Je ne sais pas quel est le numéro.
Parce qu'ils ont des numéros, mais c'est un Moleskine noir rempli de dessins, de plein d'auteurs, d'amis et des miens aussi.
D'accord, si on le retrouve...
Grosse récompense.
Grosse récompense des dessins, par exemple, quelque chose comme ça.
Ah, attends, on peut négocier.
D'accord. Ah, Eh ben voilà, c'est fait.
Contactez-nous si vous êtes en possession de ce Moleskine.
Bon, en attendant de retrouver le carnet, lisez le roman des Goscinny de Catel. Ça s'appelle Naissance d'un Gaulois. C'est édité chez Grasset et c'est un véritable délice. Catel, vous restez avec nous. Est-ce que vous savez faire ça? Mais oui, elle sait le faire.
Monsieur, il est petit.
Mais il est charmant. C'est pour lancer les pop news.
Et Beck is back, une affirmation qui claque, mais pas autant que l'armée rassemblée par le chanteur pour son nouvel album. Chris Martin, Sky Ferreira, Greg Kurstin ou encore Pharrell Williams, comme sur ce titre Uneventful Days. Le nouvel album de Beck s'appellera Hyperspace et il sortira le 22 novembre.
Avis aux Potterheads, quelques nouveautés des plus réjouissantes à signaler. Harry Potter et la Coupe de Feu illustrée, un gigantesque et magnifique bouquin pour ceux qui ne se remettent pas du sort de Cédric Diggory. Les Contes de Beedlebard, le bouquin que Dumbledore offre à Hermione. Un très beau livre pop-up de Poudlard, fier d'être sorcière, pour tout savoir sur les femmes de l'univers Rowling, de l'état à Hermione en passant par Luna. Et enfin, les mystères de Poudlard, pour tout savoir de la prestigieuse école que vous soyez Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle ou même Serpentard. Toutes ces nouveautés sont éditées chez Gallimard.
Lumos Maximus.
Avant de parler de Watchmen, la série, saluons Watchmen, la BO, puisque cette dernière est signée par deux éminences du genre, les préposés au score de David Fincher, Trent Reznor de Nine Inch Nails et Atticus Ross. Et cette bande originale des plus inquiétantes est désormais elle aussi dispo.
France Inter. Popopa. Antoine Decaune.
Oui. C'est moi.
Dobby, l'elfe de maison d'Harry Potter.
Pas du tout Harry Potter lui-même.
Ah non. Si, Charline. Non, c'est Wawa Potter, ça, c'est pas du tout la même personne.
On parle de la série événement Watchmen et du podcast intérieur queer dans la suite de Popopop, juste après un tout nouveau duo improbable, Bilal Hassani et le rappeur Al Capote. Ça donne Monarchie Absolue.
Je passe ma liasse, pourquoi tu me dévisages, mais tu te fiages. C'est bien dommage. Parler ma chute sur un nuage. Ouais, quoi neuf, ouais, turn up, ouais, got up, ouais, je put up, ouais, quoi neuf, ouais, turn up, ouais, got up, ouais, je put up. Et ma honte, je vois que tu danses. Toutes les têtes dans la room se penchent. Ah, aussi au fond, tu penses. Le petit de l'Eurovision m'ambiance. Quand j'arrive sur la piste, les regards se tournent tous à la fois. Je vois bien que même immobile, bébé, j'ai plus. J'appelle les courtisans à bien me snapper. Le King B est bien arrivé. Je l'ai envoyé à tous leurs potes. Il en a fait un feat avec Al Capone.
Qui le cru, qui le cru. L'empereur est le roi. Monarchie brave son pute. La gorge sèche, salope, lèche, t'es trop fraîche. Al Capote, wesh, en sportswear, à l'hôtel ou dans d'autres sphères. Ceci est une affaire conclue. T'es au chômage, vais me faire ton cul. Tous ces billets verts, je compte plus. Je cause des dommages, fais taire la concu. Ouais, je collectionne les reliques. Et à mon poignet, j'ai une Rolex. Je sens que ces putes me reluquent. Complètement défoncé, je suis relax. Je m'infile dans ton couloir ralenti. Et ton putain de trou noir s'agrandit. Argent, sexe et pouvoir avant que je tire. Tel est mon bon vouloir, je pars en vrille. Bonsoir Paris, la peau de mes couilles s'attendrit. C'est garanti, ici l'or et l'argent brille. Je suis aquatique comme l'homme de l'Atlantide. Avec Bilal, on remportera le Grand Prix. Qui le cru,
what up, ouais, turn up, ouais, got up, ouais, je put up, ouais, what up, ouais, turn up, ouais, got up, ouais, je put up, yeah.
Bilal Hassani featuring Al Capote, c'est improbable et ça s'appelle Monarchie Absolue. Bilal qui est en concert ce soir à l'Olympia. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes toujours en compagnie de Catel et vient de nous rejoindre Laurent Vallière. Bonjour Laurent Vallière.
Bonjour Antoine. Avant bonjour nous... Charline.
Bonjour.
Avant de nous parler de la série événement Watchmen, Catel, vous avez lu les Watchmen?
Oui, je connais, c'est une série culte.
Vous aimez?
Je suis assez intéressée. C'est pas forcément l'univers que j'aime le plus au départ, mais je dois dire que c'est une uchronie très prenante et captivante.
Bien. Laurent, vous êtes allé à New York, reculé devant aucun sacrifice, rencontrer le showrunner Damon Lindelof, le co-créateur de Lost, la réalisatrice Nicole Cassel et les acteurs. On est quoi en business?
Ah, j'avais jamais essayé, c'est Echo... Prime, je sais pas quoi.
Éco plus.
C'était super mauvais.
Bah oui.
D'ailleurs, même le steward et même m'a dit, mais ouais, c'est pas super, sinon, c'est pas très intéressant.
Une fois arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé alors?
J'avais jamais pris cette classe-là. Alors, directement d'abord à l'hôtel, parce qu'il faut dormir, et le lendemain, interview.
Voilà, sauter les étapes, oui.
Voilà. et ben, on a rencontré le showrunner, comme vous dites, Antoine. Ouais. C'est vrai que c'est la série sur laquelle parie HBO pour remplacer le succès monstrueux de Game of Thrones. Watchmen, c'est la bande dessinée, on le rappelle, signée Alan Moore, Dave Gibbons. En 86, ça a renouvelé le genre dans ce qu'on appelle les super-héros. On découvrait leur désarroi, leurs doutes, comment ils en étaient venus à sauver l'humanité. Et c'était dans une uchronie, on était en 86, aux États-Unis, en pleine guerre froide, alors que Richard Nixon était président américain et que l'Amérique avait gagné la guerre du Vietnam. Alors, Damon Lindelof... Vous l'avez dit, c'est le co-créateur de Lost et c'est un fan absolu de Watchmen. D'ailleurs, il s'en est inspiré lorsqu'il a écrit Lost, avec des épisodes par exemple entiers de Lost qui étaient vus par exemple à travers le regard d'un seul protagoniste. Il n'a pas voulu faire un remake de Watchmen, il a voulu raconter une nouvelle histoire. Elle se déroule en fait aujourd'hui, 34 ans donc après la fin de la bande dessinée, au beau milieu de l'Amérique, pas du tout à New York, mais plutôt à Tulsa, où a eu lieu pour de vrai... au début du XXe siècle, une émeute contre la population noire. Alors, première surprise, donc on n'est pas à New York, première surprise, les policiers portent des masques pour protéger leur identité face à des suprémacistes blancs qui les attaquent. Et si la série, en 86, avait été écrite en pleine guerre froide et donc tournait autour de la peur d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, les sujets d'angoisse aujourd'hui dans le monde ont changé. Je lui ai demandé, du coup, quel thème il avait choisi pour cette nouvelle série de Watchmen. Damon Lindelof.
La réponse, selon moi, est indéniablement les relations entre races ainsi que la méfiance envers les autorités. Non seulement une méfiance envers les forces de l'ordre, mais aussi envers les instances les plus puissantes du gouvernement. Donc, ces personnes que nous considérons comme garants de la loi, s'ils trouvent que la loi ne leur correspond pas, qu'elle est dépassée, ils sont alors en capacité de s'autoproclamer justiciers et de faire tout le mal qu'ils souhaitent. Ces idées qui prévalent déjà dans le Watchmen original sont encore d'actualité. Et ces thèmes que le Watchmen original ne traitait pas, comme la race et la culture, semblent être les problèmes les plus importants aux États-Unis de nos jours. Ainsi, nous avons mêlé ces idées de culture et de race et les avons incorporées aux fondations de Watchmen.
Alors, on découvre Antoine dans la série ce soir, puisque c'est le premier épisode sur OCS, il était diffusé cette nuit sur HBO, de nouveaux justiciers. Surprise, l'héroïne, c'est une femme noire, elle s'appelle Angela Abraham, elle a trois boulots, une couverture de boulangère, mais elle est aussi policière, et puis elle a un costume quelque part chez elle. Elle va redécouvrir son passé, elle est incarnée par Regina King, et puis on retrouve aussi d'anciens personnages, par exemple Laurie, l'ancienne petite amie du docteur Manhattan, qui a bien vieilli, et puis Adrian Veidt, le justicier masqué, qui à la fin de la BD, rappelez-vous, avait provoqué la mort de millions de personnes, et il est incarné par un Jeremy Irons très dandy.
Mais en quoi la série est-elle pop, mon cher Laurent?
Mais alors, déjà, on peut dire qu'elle multiplie les genres. Vous avez du western, vous avez un côté à la James Ivory dans certains moments. Et puis, même si la plongée dans la série est franchement ardue, parce qu'on voit pas dans le premier épisode donc de super-héros, en tout cas, on sait pas vraiment où ils sont, elle revisite le genre populaire des super-héros. Pour Damon Lindelof, le showrunner de Watchmen, les super-héros, en fait, sont devenus nos dieux.
Our gods are superheroes.
Nos dieux sont des super-héros. Nos religions s'inspirent des super-héros. Nous tenons une relation plus intime avec Iron Man que celle que nous tenons avec des organisations religieuses aux États-Unis. Et je pense qu'il est difficile de détruire nos dieux. Nous souhaitons continuer à aller à l'église, au temple, mais ils ne risquent pas de bouger. Et je pense qu'il y a des histoires plus intéressantes à raconter.
Alors, en tout cas, la série qu'on pourra découvrir ce soir, premier épisode, est brillante dans ses images, dans son mode de narration complexe, mais comme c'est un puzzle, comme la bande dessinée qui avait 12 chapitres, c'est franchement difficile de se faire une idée complète de la série avant d'avoir vu le tableau des 9 épisodes au complet.
D'accord, merci infiniment.
J'ai le droit de donner un conseil, relisez la BD avant de regarder la série HBO, sinon c'est très confusant.
Merci Charline.
Mais je me demande même si on l'a... relu si...
Enfin, on comprend rien.
C'est
à retrouver sur OCS et c'est une série en partenariat avec France Inter. Merci encore Laurent. Je prends l'ascenseur pour aller dans l'appartement d'Hugo Combe, le lieu d'enregistrement du podcast original Intérieur Queer. Ah bah oui, le bouton Hugo est bien là. Bon, c'est au troisième. Le voyage ne devrait pas être trop long. Ça y est, je suis arrivé. Oh, joli parquet dans cet appartement. Et qui a vécu. Comme Hugo Combe, d'ailleurs. Bonjour, Hugo Combe.
Bonjour,
Antoine. Nous connaissons, car vous avez travaillé avec nous ici, dans Papa Pop, comme attaché de production. Mais aujourd'hui, vous venez en tant que podcasteur. Et à vos côtés, Camille Mathy et Gabriel Debray. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Tous les trois, vous avez créé Intérieur Queer, ce nouveau podcast original enregistré dans votre appartement Hugo avec beaucoup de vin rouge, paraît-il, et beaucoup d'olives aussi.
Et beaucoup de...
d'olives.
Ah oui, aussi, oui. Parfois c'est des amandes grillées, parfois c'est du vin blanc
oui,
aussi.
Oui, bon, peu importe.
Et on l'a aussi créé avec Flora Bernard, qui mange aussi des olives et qui est réalisatrice de ce podcast.
C'est un podcast LGBTQ+, le Q correspondant à queer. Mais attendez... C'est quoi être queer ?
Eh bien,
je crois
que le jingle était assez approprié puisque notre premier épisode dans ce podcast s'appelle « C'est quoi le queer ?». Il dure à peu près 45 minutes et je crois que nous n'avons pas la réponse à l'issue du premier épisode.
Camille Mathy peut-être ?
Non, aucune réponse. Non. C'est très flou.
Gabriel Debray ?
Oui, on n'a pas la réponse, mais je pense que c'est pas très important d'avoir une réponse définie de ce terme-là, parce que finalement c'est une identité qui appartient à chaque personne qui l'incarne, donc il y a autant de définitions du mot queer que de personnes qui s'appellent comme ça.
Bah c'est pop.
Voilà, ça résume tout.
Puis peut-être que, comme dans Watchmen, il faut plusieurs épisodes avant que ça prenne avant de dessiner les contours de manière plus précise.
Oui, sans doute, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir des contours fixes et définis, même à la fin de 10 épisodes.
Hugo, si on doit quand même délimiter le champ lexical.
En gros, ce qu'on essaie de dire, et un peu la conclusion à laquelle on arrive à l'issue de notre épisode 1, mais je pense qu'il ne va pas falloir trop d'une saison, en effet, pour avoir quelque chose de vraiment défini. En fait, on appelle queer, peut-être c'est un terme un peu ombrelle qui rassemble des tas d'identités, que ça soit des identités de genre ou des identités sexuelles. C'est un terme qui est assez politique et militant. C'est un terme qui traduit qu'on décide de politiser ces questions-là, les questions de la sexualité, du genre. Et déjà on peut dire ça, politiser sa sexualité, son identité.
Alors
de genre.
Politiser, mais peut-être pas dans le sens politique traditionnel du terme, c'est-à-dire binaire, avoir un choix à faire entre gauche et droite par exemple.
Oui, non, c'est ça, c'est revendiquer une identité et se battre pour et en être fier et lutter pour sa visibilité aussi.
L'origine de ce podcast, c'est la lassitude, celle d'entendre trop souvent des hommes blancs, hétérosexuels et riches. Comme moi, donner leur avis sur toutes les questions qui ne les concernent pas. Le mariage pour les couples homosexuels, la GPA, le droit des personnes trans, l'écriture inclusive. Lassitude donc.
Oui, bah, c'est vrai que depuis, je pense, plusieurs décennies que ces sujets sont sur la table, c'est beaucoup des personnes qui ont l'autorisation de parler dans les médias, qui donnent leur sujet là-dessus. Et là, on avait envie de changer de direction et de donner le micro à ceux qu'on n'entend jamais sur les questions qui les concernent pourtant. Et là, je pense que le dernier débat sur le voile montre qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus,
puisqu'il n'y a
pas une seule femme voilée qui est apparue dans les médias.
Vous avez remarqué.
Ces dernières semaines.
Ça, c'est le point de vue de Gabriel Debray. Vous, Camille Mathy, vous êtes d'accord avec ça, cette lassitude ?
Assez d'accord. Et puis, surtout, c'est très compliqué d'entendre les médias traditionnels en parler. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on ait l'occasion d'en parler tous les trois ensemble et de se retrouver là-dessus.
Oui, parce que la conversation, parce que vous livrez un exercice de conversation, est relativement apaisé et agréable à écouter en ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la friction, comme c'est souvent le cas sur ce genre de sujet.
Bah, en fait, c'est ça l'avantage de discuter avec des gens avec lesquels on est d'accord.
C'est quand même... Mais non, mais c'est drôle que vous le disiez, c'est pas si fréquent. Hein.
Bah
c'est,
ouais.
En ce moment, c'est pas comme ça qu'on fonctionne quand on veut, je veux dire, faire avancer des débats, mais quand on veut en avoir, en tout cas.
Bah, en fait, le point de départ de notre podcast, c'était des discussions qu'on avait à la cantine de Radio France, où on était entre nous et on réfléchissait à quelle forme pourrait prendre ce podcast. Et on avait des discussions entre nous, donc en fait, on cherchait juste la meilleure façon de parler des choses. Et on s'est dit, bah, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on donne à entendre aux gens. Et c'est vrai que, en fait, c'est hyper agréable quand il y a une personne non binaire qui va nous dire, bah, moi, je suis ni un homme ni une femme et appelez-moi par mon prénom, ça suffira et essayons d'éviter de genrer. En fait, c'est hyper agréable de pas avoir derrière un expert, je mets des guillemets avec mes doigts, qui va dire
ah oui, mais l'identité de genre, c'était extrêmement compliqué.
C'est hyper bien l'expert.
Dominique Delaroy, exactement. Vous vous souvenez ?
Je me souviens bien.
Vous prenez un exemple simple, celui d'embrasser son partenaire dans la rue quand on ne ressemble pas à monsieur et madame tout le monde. Dans le premier épisode, on découvre qu'on peut être queer et hétéro.
Ça, c'est une question qui fait débat à Gabriel et...
Gabriel ?
Ouais, je sais toujours pas vraiment quoi en penser. Alors, si je devais donner une réponse à cette question-là, c'est que je pense qu'on peut pas être queer et hétéro si on entend hétéro dans le sens politique du terme, donc appartenir à la société telle qu'elle est construite et admise. Par contre, si on prend ça juste sous l'angle d'une définition de la sexualité et donc qui sont nos partenaires sexuels, alors oui, on peut être queer si par ailleurs dans la vie on subit des discriminations par rapport à son identité vestimentaire, son corps et tout un tas d'autres critères comme ça. Voilà. Mais c'est vraiment la question la plus touchy, je pense.
Camille, vous êtes prêt à toucher la question touchy ?
Non, là-dessus, je rejoins Gabriel.
Qu'a-t-elle peut-être ?
Alors, pour intervenir, je suis d'accord.
C'est d'accord, Laurent, vous avez un point de vue sur la question ? Oui, non.
Non, je ne m'étais jamais posé cette question-là, en
est-ce
fait.
Que les, est-ce que les Watchmen sont queer ?
Non, mais pour le coup, il y a pas mal de hétérosexuels blancs suprémacistes dans la série.
Ouais.
Et riches.
Et
ça,
ils
je
meurent,
sais pas.
On espère.
Mais... J'ai pas vu la fin. Non, pour le moment, ils sont en train de faire des attentats.
C'est une forme de réponse.
Mais la société change. Hein. Moi, je vois avec mes enfants, ma fille cadette, quand je lui ai demandé si elle préférait les filles ou les garçons, elle m'a dit quelle bizarre question.
Ah, génial.
Ah, c'était oui, non question pour elle. Voilà. Et moi, je tombais un peu des nues, mais elle m'a dit, mais enfin, on aime quelqu'un. Donc, j'ai commencé à penser autrement.
Ouais. Autre exemple de question posée, peut-on être lesbienne, mais ne pas être queer ?
Ah.
Qui veut y aller ?
Je pense que, de toute façon...
Ah, Gabriel, toujours.
Ouais, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions sous ma douche, notamment.
C'est une bonne nouvelle.
En fait, je pense que ces questions-là, à vrai dire, sont pas très importantes parce que tout ça, c'est des termes que les gens choisissent choisissent ou non de se définir comme ça. Donc, s'il y a une lesbienne qui a envie de dire non, je ne suis pas queer, bah voilà, c'est possible d'être lesbienne et pas queer. C'est, voilà, c'est de l'autodétermination. Et après, bon, il y a la question de la signification politique du terme queer, mais voilà, encore une fois, c'est en évolution permanente. Donc, un jour peut-être oui, un jour non.
Des débats qui s'ouvrent à n'en plus finir. Bon, merci infiniment, Hugo Combes,
j'ai
Camille Mathy, Gabriel Debray, mais l'important c'est de poser des questions, vous savez.
Oui,
à bientôt, et d'ici là, prenez bien soin de votre cuir intérieur, comme vous dites à la fin de vos podcasts. Intérieur cuir, c'est à retrouver sur toutes les applis de podcast. Merci à vous tous, merci Catel. Merci infiniment d'être venu nous retrouver aujourd'hui. Le roman des Goscinny s'est édité chez Gallimard. Chez Grasset, pardon. C'est ce que je raconte, moi. Et bien sûr, Le Monde de Lucrèce. Oui, c'est ça, non ? Le Monde de Lucrèce que vous avez fait, votre autre collab avec Anne Goscinny. Ça, c'est édité chez qui ?
Chez Gallimard, ça vient de sortir le 4e volume.
Mais c'est bien ce que je disais, Gallimard. Bon, et merci Laurent Valère. Je rappelle que Watchmen, c'est en ligne sur OCS. Merci à l'équipe de Pop, Ghislain Fontacouir à la réalisation, à la technique Paul Perchecouir, Aurélien Esquire, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Cocouir et Simon Arrest. Rasta Queer, nos attachés de production à la programmation musicale Juba Queer et Raphaël Harry Queer, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, lui.
Bonjour, c'est Bruce Springsteen.
Qui ça? C'est qui?
Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jeunes 3.0, un yeux, vous une yeuvesse à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme dit Hugo à la fin de ses tutos intérieurs queer sur YouTube.
Prenez soin de votre... Abonnez-vous à notre podcast.
Ah, ben voilà. Suivez-nous. Suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 36-15, pop-pop-pop sur Instagram et Twitter.